Ok, super, c'est cool. Merci, Melk. Alors, j'essaie de regrouper les questions par thème. Au niveau de la résistance, donc il y a trois questions. Comment se fait-il que Cuba, un petit pays sous embargo depuis si longtemps, est capable de fabriquer un vaccin anti-Covid, alors que la France, pays de Pasteur, n'y arrive pas? J'enchaîne l'autre question, je te les mettrai par écrit après si tu veux. Pouvez-vous approfondir ce qu'est cette fameuse révolution agraire de Cuba? Avec l'isolation de l'île, Cuba a dû se débrouiller pour être pratiquement alimentairement autonome, sans intrants importés. Quel est le modèle agricole cubain actuel? Il est vanté comme exemple d'agroécologie par certains. Et enfin, dernière question sur ce sujet-là, quel est le rapport des Cubains avec leur histoire? Y a-t-il un roman national diffusé par une propagande d'État? Quel rapport du Cubain moyen avec cet héritage révolutionnaire? Donc première question, comment ça se fait que Cuba ait pu survivre à cet embargo depuis si longtemps et qu'il est capable aujourd'hui de fabriquer un vaccin anti-Covid, sachant que la France elle-même n'y arrive pas.
C'est une bonne question. Question suivante.
Ok, mais selon toi, enfin,
Non, mais
sans apporter
parce que c'est
de
une.
sans nous dire la vérité, mais
Parce
est-ce que
que
tu penses que...
dans le livre que j'ai publié, il y a pas mal de témoignages de médecins, parce que c'est vrai que c'est la médecine qui fait le plus mal au cœur sur l'embargo. Mais ce n'est pas que, et ce n'est pas forcément le plus. Je veux dire, quand tu coupes le pétrole, tu coupes le pétrole à un hôpital. Quand tu coupes l'électricité, c'est tout l'hôpital. Donc il y a des embargos et des effets d'embargo en amont qui ont plus d'impact. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans un clinique, dans un hôpital qui traite les enfants atteints du cancer et que les mecs te mettent à te raconter concrètement. Ce que c'est que ça te fend le putain de cœur. Donc ça, c'est des témoignages dans mon bouquin. C'est du concret, du vécu, de jusqu'où va l'embargo. Cela dit, la classe socio-professionnelle médicale à Cuba est vraiment, je vais utiliser un terme qui va choquer, mais une race à part. C'est des gens qui sont embauchés sur des critères qu'on ne peut pas comprendre ici en France. Un médecin cubain. Allez, je ne sais pas les chiffres maintenant parce que les variations dollars, taux de change, etc. changent tellement, mais quand j'ai connu, mon meilleur ami était un médecin cubain, il est mort lors d'une mission internationaliste, donc Pedro. Pedro, à l'époque, il gagnait 10 dollars par mois. C'était un chirurgien, pas un médecin, un chirurgien transplantateur de foie et de rein. Et moi qui ai traduit en anglais un de ses articles qui a été publié dans les revues médicaux. Pedro donc gagnait 10 dollars par mois. Donc on va se mettre ce chiffre bien dans la tête. À l'époque, s'il avait franchi le pas d'aller à Miami, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, qu'il pouvait raisonnablement pouvoir gagner, penser gagner 10 000 dollars par mois. Okay? Un chirurgien transplantateur. On est en train de parler ici non pas d'une culbute double, même pas de 10, même pas de 100, on est en train de parler de 1000. Donc chacun qui m'écoute s'imagine que quelqu'un vient vous offrir 1000 fois plus que ce que vous gagnez. Et vous répondez quoi s'il vous dit je vous les offre en échange de que vous fermiez votre gueule, par exemple. Allez, combien résisterait? Donc aujourd'hui, par exemple, on me dit, les critiques de Cuba disent, ah ouais, d'un air moqueur. Il y a 10% des médecins qui partent à l'étranger qui ne reviennent pas. Tu sais quelle est ma réaction à moi? Je vais dire merde, alors il y en a 90% qui rentrent. C'est extraordinaire. On offrirait 1000 fois plus à nos médecins à nous pour aller aux États-Unis. Il y en a combien qui reviendraient? À votre avis? Il faut comprendre ça pour comprendre tout le degré de dévouement, le degré de. Comment on appelle ça quand un prêtre. Quand tu es. La vocation, vocationnel, l'aspect vocationnel du corps médical cubain. Abnégation, je vois le terme. Dévotion. Dévotion, c'est peut-être pas ça, métèque. Mais abnégation,
Justement, c'est bien parce
etc.
que du coup, on enchaîne sur l'autre question là, c'est le rapport des Cubains avec leur histoire. Est-ce qu'il y a un roman national? Est-ce qu'il y a une propagande d'État, quelque chose qui va souder le peuple, une histoire comme ça qui est
Écoute,
portée?
propagande, évidemment, ce terme-là, j'ai envie de dire, sacerdoce, c'est pas mal, je prends aussi. J'aime pas le terme parce qu'il a un côté péjoratif, c'est sûr et certain. Par contre, qu'on te raconte l'histoire et que tous les Cubains le connaissent, mais pas que l'histoire, les 150 ans, depuis Atuay. Donc, un Cubain, dès son plus jeune âge, apprend que son pays est en lutte pour son indépendance et que c'est l'une des choses les plus chères qui soit. Oui, j'ai les gamins cubains saluent le drapeau cubain le matin en arrivant à l'école. Comme les Américains, hein, soit dit en passant. Donc, il y a un vrai ferveur nationaliste, un dévouement à sa patrie. J'utilise ce terme alors qu'en France, ça me gonfle un peu parce que patriotique, les forces patriotiques, quelqu'un te dit ça en France, tu dis « Oula, quittez-toi ». À Cuba, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de défendre sa patrie face aux massacres, face aux esclavagistes de l'époque, face à... Voilà quoi, il y a cette profondeur historique dont j'ai parlé au début. Alors oui, c'est très cultivé. C'est très cultivé et ce n'est pas aussi caricatural qu'on peut le penser. Fidèle, les journalistes à les écouter. Figurez-vous que le culte de la personnalité est interdit dans la constitution cubaine. Figurez-vous que le Parti communiste cubain n'est pas un parti de masse, que ce n'est pas lui qui contrôle les élections. Figurez-vous que le vrai pouvoir, c'est l'Assemblée nationale populaire, dont la tête est celui que j'ai interviewé à la fin de mon bouquin. Comment est-ce qu'un mange-merde comme Victor arrive à interviewer le numéro 3 du régime cubain? Tu sais comment? Il demande. Tu sais quoi? Et le mec, il te dit, mais viens, et tu tutoies. Et tu rentres dans un immeuble qui est le siège du pouvoir populaire cubain, où il n'y a même pas un garde, il y a juste une vieille dame à l'entrée qui tient comment on appelle ça, les trucs de téléphone, là, tu sais, comme qu'on voit dans les films américains, noirs américains des années 40, où tu banges des prises comme ça, bougez pas, je vous passe le 33-45, les trucs, les standards téléphoniques à l'ancienne, qui sont tout droit sortis d'un film. Et c'est comme ça que tu rencontres le numéro 3 du régime. Et il rentre comme ça, machin, et tu commences la conversation, il te raconte des tas de trucs. Voilà, ça
une
c'est
croyance, tu vois. Il croit en quelque chose, en une religion, je ne sais pas.
Alors, à cause du. Alors, le détail qui aurait pu vous marquer les esprits, j'ai parlé de l'importation massive d'esclaves de l'Afrique de l'Ouest. Le catholicisme, Cuba est probablement le seul pays en Amérique latine où le catholicisme compte pour des cacahuètes. Rien. C'est une minorité. La religion cubaine, c'est le syncrétisme importé de l'Afrique de l'Ouest, y compris chez beaucoup de Blancs, mais chez les Noirs omniprésents, c'est le syncrétisme. Voilà.
Okay.
Donc, c'est pas le catholicisme. Donc, voilà, je finis sur les médecins cubains. Oui, voilà, donc y a les gars sont, je les vois, avec trois fois rien, ils arrivent à... c'est peut-être une question d'éducation. C'est peut-être, il y a aussi un chapitre de mon livre qui est consacré à l'éducation de la médecine à Cuba, qui n'a rien à voir avec l'éducation de la médecine ici, pour des résultats probablement meilleurs. Alors, l'éducation, la médecine et l'agriculture, je voudrais en parler parce que c'est la question qui suivait, si je me souviens bien.
Exact.
Et je vais mettre dans le même sac. Et je vais d'abord écrire un truc. Ce que je viens d'envoyer là, How Cuba Survived Peak Oil. C'est un documentaire tourné par les Américains en 92, mais qui n'a pas vieilli d'une ride, à mon avis, qui est sous-titré en français, que vous pouvez trouver sur Internet, qui raconte la conversion de l'agriculture cubaine. La conversion de quoi vers quoi? Je vous ai dit, et ce n'était pas innocent, que l'agriculture cubaine, au moment de la choc, le 92, la chute des pays de l'Est, était mécanisée. Très à la française, d'ailleurs. C'était une agriculture industrielle, des grands champs de sucre, des grands champs de scie, et vas-y au tracteur et au machin truc, pendant que les enfants des ex-paysans étudiaient la médecine à La Havane, devenaient ingénieurs, pilotes de ligne, que Dieu, que sais-je. Ben, quand la crise est arrivée, Cuba, pauvre, plus de paysannerie. Non seulement les machines ne marchaient pas, mais que le sucre, on ne peut pas bouffer du sucre que du sucre. On n'a pas de bouffe. La terre est pourrie par le sucre, parce que le sucre est un sacré cochonnerie du point de vue agricole. La terre, vous arrachez la canne, il faut attendre, je crois, 4 ans pour que la terre puisse servir à autre chose. Donc, vous vous retrouvez sans paysannerie et vous vous retrouvez soumis à un blocus, c'est-à-dire pas d'engrais et pas de pesticides. Et en fait, qu'est-ce que Cuba a fait? Et ça devrait intéresser tous les écologistes de la planète. Parce que c'est le seul cas que je connais qui s'est passé à l'échelle d'un pays tout entier. En 4 ans, Cuba a transformé son agriculture en une agriculture industrielle, totalement en une agriculture bio, 100%. À tel point que dans la loi, et je ne sais pas si c'est la Constitution, je crois que ça a été introduit dans la dernière modification de la Constitution, ou si c'est juste une loi organique, je ne me souviens plus, mais les pesticides maintenant et les engrais chimiques sont tout simplement interdits. Ce n'est plus une question de est-ce que celui-ci par rapport à celui-là. Non, tout est interdit. Tout est interdit. Donc voilà comment, et c'est intéressant parce qu'il y a deux choses que les Cubains en ont retenues ou pourraient nous donner comme leçon. C'est un, que c'est possible. Deux, que les rendements ont augmenté. Bizarrement, les Cubains nous disent, figurez-vous, on n'y croyait pas. Ils disent deux choses, on n'y croyait pas. Deux, on n'y est pas allé par conviction idéologique, on y est allé contraint et forcé. Et maintenant qu'on y est allé, jamais on ne reviendra en arrière. Les rendements ont augmenté. Je dis ça et j'insiste là-dessus parce qu'un des arguments principaux contre l'agriculture biologique pure, bio, 100%, c'est, et c'est le, en tout cas c'est celui que j'entends le plus souvent, « Ah, c'est sympa Victor, mais tu comprends, le rendement. » Ben, je ne sais pas, à Cuba, ils disent que le rendement elle, s'est amélioré, à condition que tout le pays passe. C'est pas... Eh oui, donc un des arguments que j'entends principaux contre l'agriculture bio, apparemment est contredit par une expérience cubaine. Donc ce documentaire dont je parle, là, qui est « How Cuba Survived Peak Oil », c'est comment Cuba a survécu au pic pétrolier. Pourquoi ce titre? Parce que Cuba a survécu, si vous voulez indirectement, un phénomène qu'on pronostique depuis des années à l'Occident, c'est qu'un jour, il n'y aura plus assez de pétrole. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus assez de pétrole? Donc, ce n'est pas que les bagnoles qui s'arrêtent de rouler. En fait, tout s'arrête de rouler. C'est ce qui est arrivé à Cuba. Tout s'est arrêté. Et c'est là qu'ils ont décidé de s'ouvrir au tourisme. Ils n'avaient rien d'autre à vendre à part leur plage et leur soleil. Parce qu'il n'y a pas de mines. Il n'y a pas beaucoup de mines. Il n'y a pas de source d'énergie. Il n'y a pas... Donc, c'était une situation très compliquée. Et du point de vue médical, il s'est présenté une chose vachement intéressante aussi. Comme, d'ailleurs, je pourrais vous raconter, il faudrait qu'on fasse un truc uniquement là-dessus, sur les prisons pour sidéens. Cette campagne pourrie qu'il y a eu en Occident. Moi, je suis rentré dans une de ces prisons pour sidéens. Je suis en train de mettre des guillemets partout quand vous entendez ce terme-là. Soi-disant qu'on mettait les gens atteints du sida dans les prisons. Il n'existe plus, mais quand il racontait ça à l'époque, comment on peut déformer les faits. Et moi, je suis rentré dans une prison, j'ai passé la journée dans une prison pour sidéens. Encore une fois, comment j'ai fait? J'ai demandé. Je me suis retrouvé. Voilà. Donc la médecine cubaine se voyait interdire de l'importation de tas de choses. Je veux dire, c'est compliqué pour eux. Ils ne peuvent rien acheter dans un pays occidental. Ils ne peuvent rien acheter qui contienne 10% d'un produit américain. Alors il faut importer de l'Inde et encore le transporteur qui transporte. Comment tu fais? Parce qu'il y a la loi Torricelli. Enfin bref, et le virement, comment tu payes? Puisque les virements sont bloqués dans le système SWIFT dès qu'il y a le mot Cuba. Enfin bref, une galère pas possible. Et chaque geste est une source d'énergie, une dépense d'énergie monumentale. Mais 92, que fait la médecine cubaine? Et ça, je l'ai assisté en direct parce que mes amis étaient les médecins. Reconversion totale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quelque chose de très pragmatique. C'est ce que j'aime dans le pragmatisme chez les Cubains, cette degré de pragmatisme. Ils ont dit, on va former nos médecins à toutes les médecines connues, à toutes les techniques connues. On va les chercher partout dans le monde. On va les envoyer en Chine, on va les envoyer au Vietnam, on va les envoyer en Indonésie, on va les envoyer aux Philippines, on va les envoyer où on peut. On va tout tester, d'abord dans la population masculine jeune de l'armée. Et figurez-vous que tout ce qui marche, eh ben on va le garder, même si on ne sait pas pourquoi. Et tout ce qui ne marche pas, ben on jette. Et donc, on a une présence ici, et dans les témoignages, dans les livres, on l'aborde, cette question, à des sortes de combinaisons un peu bizarres auxquelles on ne s'attendrait pas à voir ici. Par exemple, pour soigner c'est quoi le cas qui est mentionné dans le livre? Celui que j'ai mentionné, ça va être le soigner des schizophrènes avec de l'acupuncture. Il y a des trucs, ça marche. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Bon, bah alors on garde. De l'homéopathie, bah, parfois ça marche. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Alors on garde. L'hypnotisme, bah ouais, parfois ça marche pas, mais quand ça marche, on garde, etc., etc., etc. J'ai un exemple de quelqu'un qui m'a raconté que sa femme a été opérée, elle était consciente, et ils l'ont anesthésiée par hypnose et acupuncture. Elle parlait avec son mari, c'est son mari qui me raconte, en lui tenant la main, il tenait une conversation pendant que les chirurgiens lui ouvraient le ventre, quoi. Donc pas d'anesthésie, pas de choc post-opératoire, etc., etc. Donc il y a eu une reconversion de la médecine cubaine qu'ils appellent ça comment ils appellent ça là? Ils appellent ça multidimensionnel ou un terme comme ça, je suis désolé si je ne trouve pas le truc exact, mais du style on attaque par tous les bouts le patient, si je puis dire. On applique un malade selon le type de maladie, hein, pour un petit bobo au doigt, vous n'êtes pas concerné, mais pour une maladie, vous êtes pris en charge par différentes disciplines qui vont attaquer votre problème par plusieurs angles. Holistique, je vois le terme, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'avoue, que c'est peut-être ça. Donc c'est super intéressant, je pense que ce serait super intéressant pour nous d'aller voir un peu ce qui se passe, quoi. Qui sont ces gens-là formés de façon spéciale, qui se laissent pas embobiner avec des offres d'alléchants de gagner 1000 fois plus ailleurs, qui vont travailler dans les coins les plus reculés de la planète. J'interviewe une fille dans le livre qui a une Colombienne qui a fait l'école de formation, parce que pour ceux qui ne savent pas, Cuba forme 1500 gratuitement médecins par an des pays du tiers-monde, à deux conditions. Une, c'est que c'est quelqu'un qui vient d'un quartier pauvre, une famille pauvre. Il est hors de question que Cuba finance des études en médecine pour des familles de riches, c'est clair. Et deux, l'heureux élu s'engage oralement, c'est un engagement moral, de travailler au moins 2 ans dans la communauté d'où elle vient. C'est-à-dire qu'elle rend à la communauté pauvre d'où elle vient sa formation en tant que médecin. C'est une formation uniquement morale, hein. Il n'y a pas de contrat à signer ni rien, c'est ce que les Scuba demandent aux gens, quoi. Donc on leur offre dans les mêmes conditions que les étudiants cubains d'ailleurs. Ils touchent la même bourse, ils touchent les mêmes études, ils ne sont pas cantonnés dans un coin particulier, ils dorment dans les mêmes dortoirs, ils touchent les mêmes bourses, ils sont dans les mêmes conditions, etc.
Et sur l'agriculture, tu sais quel est le modèle agricole actuel ?
Ah, petite paysannerie ! Alors là, il y a
une grosse... On parlait de permaculture dans le chat, je ne sais pas si...
Permaculture, je ne sais pas si ça désigne quelque chose de trop particulier. Ce que je peux vous dire, c'est... parce qu'en anglais, pour moi, permaculture, quand je vois, ça veut dire ce qu'on appelle, nous, l'agriculture bio. J'avoue que j'atteins les limites de mes connaissances. Agriculture bio, c'est sûr et certain, puisqu'il n'y a pas interdiction de tout produit chimique. La ferme que j'ai visitée, que je raconte dans mon livre, ils pratiquent des cultures sur des alternés, du style dans des rangées de certains types de plantes qui s'alternent avec d'autres. Au bout de chaque rangée, ils ont d'autres plantes qui attirent les bestioles, les pieds de maïs par exemple, pour pas qu'ils attaquent les salades. Et au fond du jardin, il y a des chèvres dont les crottins sont mélangés avec une certaine forme de terre et des vers particuliers, et tout ça, ça leur sert d'engrais. Et c'est super surveillé par l'État qui envoie des médecins, des vétérinaires, parce que l'agriculture bio, apparemment, a un avantage, mais l'inconvénient, c'est que c'est très facile de faire circuler des parasites, etc. Donc il faut extrêmement bien surveiller les animaux et extrêmement surveiller les produits. Les légumes et compagnie pour être sûr qu'ils ne sont pas transporteurs de parasites quelconques qui pourraient toucher les êtres humains. Donc, mais je ne pourrais pas te faire la distinction. Il y a une grosse politique qui est de ça. C'est une des choses qui frappe à Cuba pour celui qui voyage en dehors des circuits touristiques. Donc pas un journaliste. C'est les jardins dans les villes. Ça, c'est une des premières choses qu'ils ont été obligés de faire. Et ça m'a frappé parce que comme ils n'avaient plus de transport, tout est logique là-dedans. Tu veux dire, c'est le contraint et forcé. Je n'ai plus de camions pour transporter. Donc, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je déménage les jardins dans les villes. Et on voit des jardins au pied des HLM où il y a un fermier, un paysan, avec ses biquettes et compagnie, et il ne ramasse rien, en fait. Il laisse pousser, et quand les gens viennent commander une salade, je l'ai vu devant moi, ça s'est passé, j'en ai commandé moi-même, d'ailleurs, puisque j'ai vécu là-bas. Le gars lui dit, donnez-moi 2 salades, et le paysan, tout de suite, monsieur, il s'en va, il coupe les pieds de salade, il les ramène, pas plus frais que toi, ça, c'est pas possible. Et le gars, il paye, il remonte chez lui. Il y a carrément des jardins qui sont parfois au sommet des immeubles. C'est partout où il y avait de la place. Et je me souviens tout au début de cette campagne, parce qu'à un moment donné, il fallait convaincre les gens et leur expliquer qu'il y avait un problème, parce que les gens qui vivent dans leur bulle, ils ne savent pas que dans les campagnes, il n'y a pas de paysans pour faire pousser la bouffe. Ça met du temps. Quand tout d'un seul coup, on ne devient pas paysan comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts et on ne se met pas un chapeau, des bottes en caoutchouc et on se décide qu'on est paysan. Non, non, il y a un savoir-faire derrière. Et donc, le ministère de l'Intérieur, pour donner l'exemple, qui se trouve à La Havane, ou le ministère des Armées, je ne sais plus lequel, tous les jardins autour, qui étaient avant des rosiers, des machins, des trucs, ils ont tout rasé comme ça, il y avait des choux. L'année où je suis passé, il y avait une énorme plantation de choux en pleine La Havane, en plein milieu de la ville, des choux qui poussaient autour du ministère de la Défense. Je pense que c'était plus un exemple qu'un... Mais pour dire aux Cubains, vous voyez, si un ministère le fait, vous pouvez le faire aussi. Donc tout le monde le fait. À l'extérieur, dans les campagnes, je n'ai pas vu trop de différence probablement à cause des régions où je voyage, parce qu'il y a quand même des régions encore qui sont affectées. Par exemple, il y a le tabac à l'ouest, dans les grandes plaines, il y a encore du sucre, beaucoup moins qu'avant, mais encore du sucre. Et puis, il y a les plantations d'oranges, comment on appelle ça, des fruits citriques. Pour le reste, et toute la partie innovante, les nouvelles choses qu'ils font à Cuba, parce que Cuba posait au-dessus de tous ces problèmes, il y en avait un troisième, économique, machin, il y a un deuxième problème, au moins, c'est que les Cubains avaient été connus pour avoir des habitudes alimentaires qui ne coïncidaient pas avec l'île. Il y a un rapport, d'ailleurs, que j'ai lu, qui est écrit par les Américains, qui s'appelle No Free Lunch, Food and Revolution in Cuba. Et tout le bouquin portait sur une étude de la particularisme cubain, c'est que les Cubains ne mangeaient pas, n'avaient pas le goût des produits régionaux. Ils ne mangent pas de poisson, par exemple. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, en 92, faire dire un Cubain qui mangerait du poisson, il te regardait avec un drôle d'air, hein, du style quoi? Sauf si c'était un morceau très, très précieux, très gna 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 gna, mais il mangeait du bœuf, et c'est très dur d'avoir du bœuf dans une île tropicale. Vous avez beau faire des croisements vaches, zébus, etc., la chaleur, etc., le taux d'humidité, ils mangeaient du porc, ils mangeaient des pommes de terre, ils ne mangeaient pas de maïs. Maïs était bon pour les Indiens, ouais, parce qu'il y avait une fierté, c'était une grosse classe moyenne. Cuba, en 89, on avait tous des machines à laver, on avait tous des frigos, on vivait tous dans des maisons en béton avec de l'électricité, on avait tous la télé. On n'était pas, quand même, on n'était pas des Boliviens, quoi, on n'était pas. On ne mange pas de maïs, nous, etc. Bah, pas de salade, par exemple. Je me souviens d'avoir fait une fois une salade avec Cubains pour leur. Ils n'en voulaient pas. Du riz froid. Non, tu ne feras pas. Bah, je t'assure qu'aujourd'hui, les habitudes alimentaires des Cubains, mais dans les années 90, c'était très particulier. C'était Cuba. Mange pas de poisson. Je voyais la mer partout. Je dis, mais vous ne pouvez pas les pêcher. Je dis, mais pour aller chercher quoi? Du poisson. Donc, c'était compliqué. Il a fallu vraiment, entre guillemets, imposer. Les Cubains adorent la bière, oui. Ils ont leur propre marque de bière. Mais c'est le rhum, hein, qui boivent. Bière et rhum. Donc, c'était pas gagné du tout.